Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. C'est vrai, vous vous posez la question de savoir, mais écoutez, est-ce qu'ils seront là? Oui, nous sommes là. Nous sommes au mercredi 28 février de l'année de grâce 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse qui démarre avec pratiquement 27 minutes à l'heure de retard, compte tenu à l'heure de la coupure. Du courant que nous avons observé ici, c'est justement le troisième numéro à l'heure de l'émission pour le compte de cette semaine. Et pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Victor Bekoku Tomega assure la mise en onde et la mise en ligne est assurée par Jérôme Akucha. Je suis au micro Pascal Lossou. Vous êtes nombreux à nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires, notamment Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Samaniam Tsugu et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Alors déjà, on parle de mercredi. William, Abel, bonjour.
Pascal, bonjour à tous les auditeurs.
J'espère que tu vas bien.
Ça va, grâce à Dieu.
D'accord. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Abassi Saka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à toutes celles qui sont en train de nous écouter.
Toujours jaloux de ses acquis.
Jaloux de nos acquis.
D'accord. Estelle Koudzonou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères, bonjour aux techniciens, bonjour également aux auditeurs, aux auditrices de Canal FM qui nous reçoivent un peu tardivement à cause des problèmes d'électricité. Dommage, mais on y est et j'espère qu'on va mener à bout l'émission sans qu'il y ait d'autres encore contingences.
Oui, mais Abbas, justement, on le rappelait au micro tout de suite, il nous a été annoncé quand même que de l'amélioration intervienne déjà dans la fourniture à l'heure de courant, mais le problème persiste toujours.
Oui, effectivement, c'est un communiqué qui a été lu à la TVT. Il y a de cela, je pense, 5 jours, bien 3 jours. Et lui, lors de
du journal télévisé
de 22h, c'est à 22h, moi je suis 22h30.
Bon, à 20h, je l'ai suivi même d'ailleurs.
Et on nous a dit qu'il y aura amélioration. Maintenant, ça devient plus inquiétant parce que c'est maintenant que ça devient pire. Les choses se compliquent davantage pour les opérateurs économiques, pour même tout le monde, parce qu'on ne peut pas comprendre que la société envoie un communiqué pour dire qu'il y a amélioration dans la fourniture d'électricité et qu'aujourd'hui on soit là à assister au pire que ce que nous avons eu auparavant. Donc je pense que quand on veut faire quelque chose, si on n'est pas prêt, on ne peut pas communiquer. Il faudrait être prêt. Qu'on dise que bon, on est prêt aujourd'hui, au moins ça va durer, mais vous avez vu, c'est à cause de ce courant-là qu'on a coupé depuis quelques temps, près d'une heure, à Canal FM, qu'on n'a pas pu démarrer l'émission. Et ça a causé beaucoup de dégâts aux uns, aux autres. Même hier, c'était dans toute la journée, dans plusieurs quartiers, qu'on a coupé. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est réellement le problème de fourniture de courant par nos partenaires au niveau du Ghana et du Nigeria? Est-ce que c'est eux qui ont des problèmes ou bien il y a autre problème qu'on ne veut pas nous dire?
Quand on nous parle alors des travaux, de maintenance, Sylvestre, c'est ce qu'on nous a dit.
Oui, en réalité, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il y a des travaux au niveau donc du Ghana et du Nigeria, donc et conséquence, il y a une réduction donc du degré que ces deux pays-là nous envoyaient. Mais à la lueur où vont les choses, je crois que il faudra nous préparer au pire. Il faudra nous préparer au pire parce que on n'a pas d'amélioration. Moi, je crois que c'est vraiment pas le cas parce que hier, c'est avec la croix et la bannière que nous avons pu boucler hier. Parfois, c'est-à-dire que ça fonctionne comme des guirlandes, quoi. C'est-à-dire que ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et puis bon, personne ne dit rien à personne. Les députés sont là. Les députés de la 6e législature sont là. Qui convoque donc le directeur de la société? Qui le convoque donc au Parlement? Bon, ils peuvent quand même s'offrir un barreau d'honneur avant de partir. Ils peuvent donc le communiquer, lui poser clairement la question devant, au vu, au sud du public, quoi. Et là, on verra ce qu'ils vont nous dire clairement.
Finalement, on comprend tout simplement que le problème est plus aussi gros qu'un problème de maintenance qui nous a été annoncé.
Oui, peut-être. On ne peut pas regarder dans une boule de cristal. Hein. On essaie de faire des analyses par rapport aux informations que nous avons. Mais force est de constater que le problème persiste toujours. Même si entre-temps, on nous a quand même dit qu'il y avait un problème d'énergie au niveau de nos partenaires, nos fournisseurs principaux, à savoir le Ghana et puis le Nigeria, qui eux-mêmes souffrent actuellement de ces problèmes de délestage également. Je crois qu'à un niveau, il faut peut-être se remettre en question et chercher des alternatives pour dépendre moins de l'extérieur en matière d'énergie. Je crois que c'est dans cette optique que la centrale Kekeli a été mise sur pied. Mais actuellement, le problème de la centrale aussi, il semblerait qu'elle utilise une énergie qui est d'abord très chère, mais qui est indisponible également. Autrement dit, même si on a de la liquidité aujourd'hui, si le Togo a de la liquidité aujourd'hui pour acquérir ce combustible-là, il n'y en a pas sur le marché. Ce qui fait que la centrale aussi ne fonctionne pas comme cela doit être. Maintenant, pour contour global, c'est tellement budgétivore et ça englobe des milliards de francs CFA. C'est des sommes faramineuses qui passent, mais est-ce que la satisfaction y est également? Non. Donc moi, je me dis, il faut relancer carrément le débat et essayer de trouver des alternatives, surtout par rapport à la dépendance du Togo vis-à-vis de l'énergie, quoi, et trouver des alternatives en interne.
D'accord. Et c'est vrai que ce problème d'énergie, hein, ou du moins ces coupures intempestives, créent aussi des sérieux problèmes dans les hôpitaux. Hôpitaux, on retrouve alors les patients, il faut être en bonne santé, justement. Donc, santé, éducation, et nous allons en parler, bien sûr, santé, éducation, qui nous parle alors aujourd'hui des clés pour mieux vivre avec une maladie chronique. Abel, quelles sont ces clés hein, pour vivre ou pour mieux vivre avec une maladie chronique?
D'abord, quand on parle de maladie chronique, ça regroupe un certain nombre de maladies qui durent avec le temps. C'est-à-dire que dans cette parution, nous abordons certaines maladies chroniques, à savoir peut-être la drépanocytose, l'asthme, l'épilepsie, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale. Donc, ce sont des maladies, en fait, très récurrentes, dont qui évoluent lentement, qui évoluent rapidement. Le traitement est long, la prise en charge est longue et peut-être plus ou moins coûteuse. Donc, aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont victimes de ces maladies-là. Et ces maladies ont des impacts psychologiques, ont des impacts sur la vie sociale, la vie environnementale, la vie professionnelle et même sur la vie intime sexuelle de ces patients-là. Donc, c'est difficile de vivre avec ce genre de maladie. Est-ce qu'on voit? Donc, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a des maladies digestives, quelqu'un qui a des maladies neurologiques comme l'Alzheimer, quelqu'un qui a des maladies gynécologiques comme les cancers du col de l'utérus, le cancer du sein, et des maladies de la peau, et des maladies des yeux, des maladies hématologiques comme l'hémophilie ou bien la leucémie par exemple. Donc ces maladies, en réalité, quand on est victime, on se dit ah, c'est fini pour moi, et on se dit souvent que ces maladies sont fatales. Mais dans cette parution, nous voulons donner cet espoir aux patients, leur dire que on peut mieux vivre quand on est atteint de ces maladies. On peut avoir une vie normale quand on souffre de ces maladies. Et nous avons abordé quelques clés importantes, c'est-à-dire quelques pistes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est atteint de ces maladies? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous allez voir, nous avons pris quelques exemples. Par exemple, quand on est asthmatique, quand on est asthmatique, quand on est drépano, quand on est épileptique, quand on souffre d'insuffisance cardiaque, quelles sont les règles à respecter? Quand on est hypertendu, quelles sont les règles à respecter? Côté alimentation, côté prise en charge, côté mode de vie, style de vie. Donc, il y a des pistes importantes. Et la première piste, c'est quoi? C'est que quand je suis patient atteint de ces maladies, il faut d'abord que j'arrive à connaître et à comprendre ma maladie. C'est-à-dire, quelles sont les causes? Quels sont les symptômes? Quelles peuvent être les conséquences? Comment est-ce qu'il faut gérer avec le médecin? Donc, je dois savoir d'abord, en fait, comprendre d'abord la maladie. Et ne pas, et secondo, ne savoir gérer avec son professionnel de santé. C'est-à-dire, il faut que je suive rigoureusement le traitement qui m'est prescrit. Est-ce qu'on voit? Et c'est à bas de ça que je peux avoir un mode de vie aisé, je peux avoir un style de vie important. Et aussi, vous savez, plusieurs personnes également se retrouvent en association. Vous allez voir en association, pour discuter de ces maladies, pour voir un peu comment est-ce qu'il faut faire. Donc, ce sont entre autres ces pistes-là qu'on a développées dans cette parution pour donner un peu d'espoir, pour donner du courage à ces patients-là, à nos patients-là qui souffrent de ces maladies chroniques-là.
C'est un article à retrouver dans votre journal Santé Éducation, paru aujourd'hui. Autre article, on peut retrouver aussi les aliments contribuent à se soigner. Et il y a aussi mieux vivre avec l'asthme. Et il y a aussi lactose pratique pour réduire les complications. Tous ces articles, c'est à retrouver alors dans votre journal de ce matin. Et ce journal est dans les kiosques depuis hier. Et c'est à quel prix aussi, s'il y a des numéros sur lesquels on peut retrouver ces journaux en PDF, est-ce que tu peux nous donner ces numéros?
Oui, exactement. La version numérique sur notre site www.sante-education.tg et la version papier, la version numérique est à 500 francs, la version papier est à 1000 francs, déjà dans les kiosques. Et on peut nous contacter sur le numéro 96 14 96 97 ou le 91 119 47. 07.
Abel, merci d'être passé dans cette émission Santé Éducation, c'est dans la kiosque. Vous pouvez vous procurer alors du journal et avoir plus d'informations, lire ces articles. Alors, chers confrères, rebonjour. Alors, c'est vrai que je voudrais qu'on débute cette émission, on démarre cette émission avec ce sujet qui me tient à cœur. La semaine passée, nous avons tous ensemble appris cet assassinat de ce jeune étudiant, Imad, c'est son nom. Sylvestre, est-ce que vous êtes revenu sur le sujet aujourd'hui, vous écrivez « Tuer pour un iPhone au-delà alors du forfait, l'actuelle génération en question ». Alors oui, nous avons appris cela et c'est à propos, ce qui a été dit, c'est à propos alors d'un iPhone Pro 15 Pro Max bien évidemment, que le jeune a été assassiné par un autre jeune, mais il y a vraiment de l'inquiétude.
Oui, en effet, il y a de l'inquiétude. Lorsque vous voyez un peu le récit donc de la police, la DCPJ qui a investigué qui a finalement donc pris ce jeune-là, je crois que en fait la police le présente comme un malfrat. Je crois qu'on peut aller encore chercher mieux. Pour décrire donc ce jeune-là. Moi, je dirais que c'est un tueur froid. C'est un tueur froid parce que lorsque vous prenez un peu le récit, il a fait venir donc son ami, d'ailleurs, selon les informations, son ami de longue date, il voulait acheter un téléphone, ils se sont retrouvés donc devant une église, et après, il le convainc donc, il convainc son jeune, donc allons un peu vers la plage pour continuer donc nos discussions afin que je puisse acheter.
Est-ce que c'est des amis de longue date?
C'est des amis de longue date, et après, il sort son couteau, il le poignarde plusieurs fois dans le dos et dans l'abdomen. C'est-à-dire que son ami qui vient donc, qui le remorque et tout ça, donc il savait pertinemment que celui avec qui je suis en train de cheminer, de causer, après quelques minutes, je vais finir avec lui, quoi. C'est-à-dire que je vais le tuer. Et pourquoi je dis que c'est un tueur froid? C'est-à-dire que, selon les informations, après donc, au lendemain, donc, il a même commencé à utiliser donc le butin donc du crime, c'est-à-dire que
le téléphone,
c'est-à-dire il enlève la SIM, mais sa SIM commence à l'utiliser comme si de rien n'était. C'est-à-dire que tu viens donc de finir avec un jeune de presque de ton âge, puisque Imad, selon le jeune qui était tué à 21 ans, lui il en a 22, donc ça veut dire que ce sont quand même des jeunes de la même génération. Tu tues la personne, tu prends le butin, c'est-à-dire le téléphone que tu convoitais tant. Et le lendemain, tu l'utilises comme si de rien n'était. Bon, sa vie, c'est pas ta tasse de thé, quoi. C'est pourquoi je dis que c'est un tueur froid, un criminel froid. Voyez-vous? Maintenant, au-delà, pourquoi je demande à ce qu'on puisse questionner même la génération actuelle? C'est-à-dire que beaucoup ont tendance, ont cette propension vers le gain facile. C'est-à-dire que lui, il vient de, je sais pas comment on va le iPhone, 15 mars, je sais pas, peut-être autour de 700, 800 000, je sais
presque
pas.
Presque un million.
Donc, lui, bon, j'ai appris qu'il est en classe de terminale. Tu es en terminale, et tu as 22 ans, et tu veux déjà utiliser un téléphone, donc, d'un million. Et comme tu n'as pas les moyens, bon, tu utilises donc, le moyen sublime, c'est-à-dire, et tu portes à terre ça, la vie de quelqu'un, et le lendemain, tu utilises le téléphone. Maintenant, je parlais tout à l'heure du gain facile parce que Prenons un peu ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les TikTok et tout. Je fais également observer qu'en février également, c'est comme si le CMO là se concile, en février également, en février 2022, il y a une jeune fille hein, qui a fait un deal avec un Ibo de coucher 100 fois avec l'Ibo pour avoir une moto.
Cela a circulé sur les réseaux sociaux.
Cela a circulé sur les réseaux sociaux et c'est un fait avéré. Et au-delà, il y a ce que nous appelons aujourd'hui les tontines de sexe. C'est-à-dire que des jeunes filles qui se recouvrent, qui créent peut-être un club ou un amical. Et aujourd'hui, s'il y a des intermédiaires, ils viennent chercher les jeunes filles, tu vas coucher avec un homme, tu reviens avec l'argent, c'est-à-dire que l'argent donc, que tu as pu collecter donc, de l'homme, tu donnes à la fille qui a besoin d'argent. Et le lendemain, s'il y a encore une occasion qui se présente où on doit encore aller voir donc, un gros bonnet, c'est l'autre, celui qui a encaissé, qui a pris l'argent, lui, elle aussi, elle va coucher avec un autre, c'est-à-dire un homme. Elle revient avec l'argent et puis elle te rembourse. Vous voyez, ils ont créé ça, ils ont parlé de tontine de cesse. Vous voyez?
Tontine cessule.
Voilà. Et au-delà, il y a également le scandale de porte-à-porter. Où des jeunes filles qui souillent leur âme et leur corps, et j'insiste là-dessus, qui souillent leur âme et leur corps, qui vont donc à Dubaï se laisser, c'est-à-dire on défèque, on fait des besoins dans leur bouche, on urine sur ces jeunes filles-là, juste parce que après, je vais avoir un véhicule donc de classe, je vais avoir un téléphone haut de gamme, je vais porter donc des vêtements ou des habits à grand prix, et puis on souille son corps et son âme. C'est pourquoi je parle donc de cette propension vers le gain facile. Notre souffreur que je l'appelle l'ami, bon malheureusement, notre jeune frère là de 22 ans, c'est-à-dire je crois qu'il s'appelle Nelson Laté
Alessandre
Akapo, selon les informations. C'est-à-dire, ce jeune-là, qui pose cette... C'est le gain facile, en fait. Parce que rien n'oblige aujourd'hui que ce jeune-là aille prendre un iPhone pour faire quoi? C'est-à-dire que le téléphone... Et même, je parie qu'il n'a pas... Il ne maîtrise pas toutes les fonctionnalités d'un iPhone. Parce qu'un iPhone, c'est pas juste un téléphone. Ça va au-delà. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis il faut questionner aujourd'hui la génération actuelle, parce qu'il y a tellement donc de choses qui portent donc atteinte à la société. Et là, je me pose une question. Peut-être que je finis par là. Est-ce que c'est l'éducation parentale qui est en panne, hein, vis-à-vis donc de la percée ou de l'influence des réseaux sociaux? C'est une question que je me pose. Parce que ces jeunes filles là et ces jeunes garçons qui sont sur les réseaux sociaux et qui s'auto-proclament influenceurs, ben, la question dit, ils influencent d'ailleurs qui? Quand on dit, je fais mon deal, celui-ci est venu m'insulter ma tête, celui-ci, toi, tu es, ça, c'est influencé.
Voilà. La question mérite d'être posée, surtout, quand tu posais la question concernant l'éducation parentale, qui est en panne. Abbas, c'est vrai que quand on suit le cours de cette histoire, on se demande mais quel degré de convoitise hein, par rapport même d'ailleurs à ce jeune qui a tué un autre jeune pour un iPhone.
Ouais, il a bien prémédité son acte avant de le faire. C'est un acte prémédité parce que là, c'est son ami souvent Ahmad qui lui livre ses téléphones. Et le monsieur Ahmad dont on parle, c'est quelqu'un qui fait bien les réseaux sociaux. Quand il vend les téléphones, il fait les publicités sur les TikTok avec ces téléphones-là. Donc, Ahmad a l'habitude de lui fournir les téléphones. Et cette fois-ci, lui veut plus grand. Je crois qu'avoir un téléphone, un iPhone, c'est réussir sa vie. On ne réussit pas sa vie par là parce qu'il faudrait travailler avant de pouvoir réussir sa vie. Un jeune de 22 ans, aujourd'hui, il a perdu ses parents. Tous les efforts que ses parents ont fait jusqu'à arriver en terminale. On le prépare pour avoir son bac, aller aux études supérieures. Voilà ce qu'il a donné à ses parents. Je ne sais pas si l'éducation au niveau des parents, si c'est au niveau des enseignants que ça s'est passé. Mais le problème, c'est que l'enfant est irresponsable et inconscient. Il cherche à gagner gros. Déjà à 22 ans, le portable que tes parents n'utilisent même pas. Peut-être tes parents utilisent le portable 1-2.
Un portable de 1 million de francs.
Mais toi, tu dis que tu veux utiliser un iPhone. Sylvestre l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il connaît les fonctionnalités de l'iPhone? Maintenant, il a ce iPhone-là, il amène ça à la maison. Ses parents vont voir ça. Ils vont lui demander quoi? Tu as trouvé ça où? Moi, j'ai vu un parent, il m'a dit qu'il a acheté un téléphone à son enfant de choses, son enfant qui est étudiant. La fille lui a dit, je ne veux pas ton téléphone, moi je veux iPhone. qu'il préfère iPhone.
C'est ce qui est à la vogue.
Hein? Vous allez prendre de l'argent, un million, le 1 million là, peut faire quelque chose pour tes études. Pour tes études. Si il n'avait pas pu tuer le monsieur pour arracher son iPhone, il lui a pris également le portable que lui utilisait, Amand utilisait. Il a pris ça.
Et d'autres téléphones aussi.
Il a pris son
sac.
Il a pris beaucoup de choses.
Son porte-monnaie.
Son porte-monnaie, tout ça. On l'a retrouvé ça chez lui. Donc, ce qui veut dire que le gars, c'est un voleur préparé. Il a prémédité son acte. Il sait ce qu'il veut faire. Peut-être qu'il veut faire disparaître les traces. Mais, inconscient qu'il soit, il a pris le portable iPhone. Il met son sac à SIM pour utiliser. Il ne sait pas que c'est filé. Si tu fais, même si tu ramasses un téléphone par terre, il faut le laisser passer. Passe, ne prends pas ce téléphone. Si tu le prends, c'est que tu es suivi. Quel que soit ce que tu fais, on va t'arrêter un jour. Et c'est ce qu'il a fait. On l'a pris aujourd'hui.
Non seulement qu'il est un criminel, mais il n'est pas, je ne veux pas dire qu'il est bête, mais il n'est pas suffisamment intelligent. Voilà. C'est-à-dire que tu prends un iPhone et tu utilises le téléphone en même temps. En ignorant qu'on peut facilement te tracer.
C'est vrai que quand on suit même le cours de cette histoire, et d'aucuns parlaient même d'ailleurs d'un jeune irresponsable, jeune inconscient, mais finalement, il faut questionner. Tel que Sylvestre l'a dit, l'éducation parentale.
Oui, avant d'aborder ce sujet-là, j'en parle tellement avec une grande froideur dans le dos. Hein. Je voudrais d'abord présenter mes sincères condoléances aux parents du jeune Imad qui a perdu la vie dans ces conditions-là. Et saluer également la célérité avec laquelle la police a pu traiter le sujet-là et donner tous les détails du fait. Et maintenant, le jeune, disons les choses cruellement, hein, c'est un assassin, on va le dire comme ça. Quand j'ai vu la police écrit « présumé assassin », j'ai dit « mais c'est un assassin », étant donné que l'élément matériel même a été retrouvé chez lui. Donc, on a encore besoin de quoi pour le dire. Lui-même, il a avoué les faits. Donc, c'est lui qui a commis lâchement ce meurtre-là. Et il s'agit d'un crime volontaire avec préméditation. C'est-à-dire, il est assis chez lui à la maison. Il se dit, bon, aujourd'hui, j'ai besoin d'un iPhone, mais je n'ai pas suffisamment de sous pour m'acheter un iPhone. J'ai entre-temps un ami qui en vend. Bon, par quel moyen je peux vite m'offrir un iPhone sans débourser un franc? Bon, je l'appelle, je lui fixe rendez-vous, étant donné qu'on se connaît déjà, il me fait confiance. J'abuse de cette confiance-là, je lui fixe rendez-vous quelque part, et puis ce qu'il y a, je le tue. Puisqu'il est allé sur le lieu du crime avec son couteau déjà, qu'il avait dissimulé sous sa tenue. Donc, c'est un acte, c'est un crime volontaire, il a bien décidé, prémédité, il a réfléchi à tout ça là, et il est allé effectivement mettre en exécution ces idées louches-là, qu'il a émise en amont. Donc, c'est un jeune également qu'on doit craindre et comprendre vraiment les mobiles de ce son acte aussi
lâche. Est-ce que c'est pas la convoitise?
Oui, c'est finalement ce à quoi je pense également. Mais il a manqué également d'intelligence. L'iPhone, ça ne s'utilise pas comme ça avec le système de iCloud et le numéro de série. Ça se trace très facilement. Donc, ça veut dire il espère être rusé ou marcher sur des principes qui ne maîtrisent vraiment pas. Mais assassiner lâchement un jeune comme ça, ça fait réfléchir. Il faut questionner effectivement l'autorité parentale aujourd'hui. Et moi, j'ai lu et j'ai eu certaines informations. On dit qu'il a des parents aisés, qui n'est pas sorti d'une famille pauvre. Qu'il a des parents aisés, il fréquente, il va à l'école, il est bien. Que personne ne peut soupçonner ou personne ne peut imaginer un seul instant que le jeune là est capable d'un acte aussi gravissime. Donc, est-ce qu'il faut questionner vraiment l'autorité des parents ou la montée en puissance des réseaux sociaux qui semblent emballer tout le monde? Sylvestre a cité beaucoup de cas tout à l'heure. Quand tu vas sur la toile parfois, ça fait réfléchir. Une petite anecdote, la dernière fois j'ai reçu une petite... disons une fillette là qui doit avoir, disons c'est une adolescente, entre 15 et 16 ans. C'est une adolescente. Elle vient dire en fait qu'on l'a chassée de l'école parce qu'elle n'a pas payé son écolage. Elle est orpheline de père. Mais je vois dans ses mains un iPhone. Mais j'ai été choquée.
Comment ça?
Bien sûr, elle tenait, elle avait dans ses mains un iPhone. Elle vient se plaindre qu'elle n'a pas de l'argent pour payer son écolage. Je lui demande, ta maman est où? Elle me dit que sa maman est commerçante, revendeuse, elle se débrouille pour subvenir à ses besoins. La première question que j'ai posée, elle utilise quel téléphone? Qu'elle utilise un Itel de 10 000, c'est-à-dire pas les Android là même, quoi, ouais, les 1-1, voilà, qu'on utilise. Toi, tu as dans ta main quoi? Elle me dit un iPhone. À combien est-ce qu'on vend ce téléphone? Elle est rentrée dans un mutisme. Tu vois à peu près l'incongruité de la situation dans laquelle tu te trouves. Ton écolage coûte combien? Elle me dit ça doit faire un truc de un peu moins de 50 000, disons un truc qui tournait autour de 47 000 comme ça. Tu as dans tes mains un téléphone de pratiquement 1 million et tu n'as pas 50 000 francs pour payer ton écolage. Vous voyez un peu comment est-ce que ça tourne? Donc il y a d'abord un manque de prise de conscience de notre jeune génération actuellement. Et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en disant de l'influence, des influenceurs qui vantent des vies même qu'ils n'en ont pas. C'est surtout ça. C'est-à-dire, ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Parfois dans des endroits où ils ne sont réellement pas. Parfois c'est même avec des montages. Juste pour avoir des prédateurs et tout ça là. Et les gamines et les gamins qui sont là, qui n'ont pas encore un mental assez fort ou un suivi psychologique assez poussé, pensent que bon, la vie est aussi facile à travers de certaines pratiques, je peux m'offrir certaines choses et ne mesurent même pas la gravité de certaines décisions ou de certaines réflexions qu'on peut faire même en étant seul. C'est juste déplorable.
D'accord, merci beaucoup Estelle. Nous allons quitter le sujet, hein, et nous allons aborder la politique, hein, la politique alors dans cette émission. Et Sylvestre, vous êtes revenu alors sur le congrès, le deuxième congrès même d'ailleurs de l'Union pour la République, et qui s'est tenu à Accra, c'était le lundi dernier bien sûr. Et vous écrivez à la une de votre journal aujourd'hui, parti unique, parti État uni et les réflexes du RPT. Et là même d'ailleurs, vous illustrez avec une photo où on voit des élèves qui ont arboré des t-shirts à l'heure de nuit, et aussi assis sûrement au palais des congrès de Lomé. Enfin, de Cara.
Oui, en réalité, c'est-à-dire que même le chef de l'État togolais, le patron donc de l'UNIR, lui-même, il a dit hein, au cours donc dans son discours d'ouverture qu'il est nostalgique donc du RPT. La preuve, on lui a servi également un plein RPT. Hein, puisque lorsque vous voyez tout ce qui est fait la dernière fois, puisque lui-même il disait que l'accueil que vous m'avez réservé depuis la préfecture jusqu'au palais des congrès, hein, je me sens nostalgique du RPT. Et bon, comment on sait qu'il est nostalgique du RPT? On lui a servi un plein RPT. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois avec ces jeunes, hein, nos jeunes élèves hein, en kaki avec le t-shirt uni.
Est-ce qu'il avait le place là-bas?
Non, aucunement. Aucunement. Je crois qu'il faudrait qu'on commence à moraliser la République. C'est-à-dire que ces jeunes-là n'ont pas leur place là-bas. L'école est apolitique. Il faut protéger les enfants. En réalité, c'est cela. Il faut protéger les enfants. Vous avez vu que lorsque un artiste togolais, je crois que j'ai connu Gangster, qui allait donc dans une école et il a chanté une chanson obscène là,
dans les lacs,
vous avez vu que le lendemain, les deux directeurs ont été rapidement sautés parce qu'ils n'ont pas su protéger les enfants. Donc, UNIR, qui est encore un parti présidentiel, un parti au pouvoir, doit savoir qu'il faut protéger les enfants. Ce qu'ils ont fait la dernière fois, laissant certains enfants déambuler et dans sur la voie publique et tout ça, en tenue scolaire et tout ça, je crois que ils sont allés un peu au-delà donc de ce qu'on doit servir en une république. Et c'est pourquoi je parlais donc du RPT. Où on faisait on chantait, on dansait, animation. Et vous avez vu que l'animation est encore revenue la dernière fois. Parce que dans la salle, on dansait, on criait, on chantait. Et puis le président lui-même, il est heureux. Hein,
mais bon, c'est pas mauvais de danser quand même.
Oui, oui, nous avons pris notre temps à danser dans ce pays. Et le pays est en retard. Donc on retourne encore à la période de l'animation. C'est pas bien, mais ça c'est eux. L'animation c'est leur organisation. Mais moi je parle donc des enfants. Il faut protéger les enfants. Les jeunes là n'ont pas leur place dans l'antre du palais des congrès comme nous avons vu la dernière fois, assis avec le kaki à même le sol et ils n'ont véritablement rien à faire. Laissez les enfants à l'école. Faites votre congrès. D'ailleurs, bon, entre je les félicite pour avoir quand même fait ce congrès-là, parce qu'il y a beaucoup de partis qui n'osent pas. Ils sont dans les conventions, des recollections, des tout ça. Eux, ils ont au moins fait un congrès. Au moins, on peut les féliciter. Mais au-delà, ce qui a véritablement déteint sur leur congrès là, c'est le fait donc de mobiliser les jeunes pour ce qu'ils ont fait là. C'est pas sérieux.
D'accord. Voilà. Abbas, à l'issue alors de ce congrès, on s'attendait quand même que les candidats qui vont représenter le parti aux prochaines législatives et régionales soient dégagés, mais finalement rien de cela. Ça a été laissé, comme ils l'ont dit, à la discrétion alors du chef de l'État.
Ouais, ça doit être à la discrétion parce que vous ne pouvez pas connaître les candidatures. Aux législatives, aux régionales maintenant, parce que tout le monde n'a pas encore déposé. C'est lorsque les gens vont déposer les candidats qu'on va les découvrir. Aujourd'hui, si à l'issue du congrès de UNI, on dévoile les noms des candidats et que par après, deux jours plus tard, on dit que non, ça, celui-ci n'est plus candidat, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, c'est pour cela que ça a la discrétion du chef de l'État. Lorsque les gens vont déposer leur candidature, on saura qui est qui fera quoi. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de candidature. Ce n'est pas un congrès pour aller désigner des candidats. On a parlé de congrès statutaire. Et les travaux ont eu lieu en commission pour voir ce qui se passe et faire le bilan et l'amélioration de ces tests des règlements intérieurs et des statuts pour les rendre conformes à l'achat des partis politiques. Donc, c'est un congrès statutaire. Quand on parle de présentation des candidatures là, les gens en ont dit parce qu'il y a eu des problèmes qu'on avait vu lors de. On devait dire qu'on voulait, au niveau du siège du UNIR ici à Lomé, qu'on devait dévoiler les candidatures, qu'il y a eu des problèmes, que les gens s'affrontaient parce qu'il y a eu des corruptions et autres. Non. Pour le moment, le chef de l'État a lui seul, c'est à lui de dire que tel va. Parce que c'est lui le chef du parti. Le chef du parti UNIR, c'est Forn Yassimbe, c'est lui qui doit désigner ses candidats qui vont représenter, qui vont tenir le flambeau de leur parti. Pour le moment, on ne peut pas parler de ça. Maintenant, quant à ce qui est des élèves, je pense que le congrès a été bien parce que UNIR, c'est son congrès. Il organise comme il veut. Il fait chanter les gens comme il veut. Mais la seule fausse, nous, c'est la présence de ce qu'on appelle les élèves qui sont en t-shirt. Parce que avant de faire ce congrès, on a dit qu'on attend que 1500 délégués au palais des congrès. Ce qui veut dire que c'est 1500 qui vont aller travailler dans la sérénité. Le reste, ce serait du folklore. Mais on n'a pas vu dedans. Maintenant, les gens ne voient pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais c'est comme on le dit souvent, c'est les à côté que les gens sont en train de commenter. Et les à côté, là, peut-être que je ne sais pas. C'est parce que le chef de l'État qui arrive dans une région qu'on a mobilisé les gens pour aller l'accueillir. Mais après ça, il faudrait que les gens rentrent chez eux et qu'on laisse les gens dans la salle, les délégués dans la salle pour faire le travail qu'ils sont venus faire dans la cérémonie.
Oui, mais Abbas, là, il y a un congrès qui s'organise un jour ouvrable. Les élèves qui devaient normalement rester en classe et sont là sur l'esplanade alors de.
Oui, c'est là que j'ai dit qu'il y a peut-être du zèle quelque part qu'il faut chercher. Et le ministre des enseignements primaires et secondaires doit réagir face à ça. Parce que Sylvester a donné un exemple tout à l'heure par rapport à des immondices.
Lui-même, il était aussi dans la salle.
Il était dans la salle. Il a vu même ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Si dans la région de Kara, le directeur régional de l'enseignement ou bien de l'éducation n'a pas pu faire sa fonction parce que c'est un jour ouvrable. On ne peut pas comprendre que dans d'autres villes, dans d'autres régions, les études continuent et qu'on dise que les élèves n'ont qu'à sortir pour faire chose alors que nous sommes prêts. Dans le deuxième trimestre, on organise aussi des examens, on est proche aussi des examens pour les préparer. Donc, il appartient maintenant au ministre de voir dans quelles conditions il faut organiser ou bien il faut améliorer, ne pas répéter ce genre de choses pour la prochaine fois.
C'est vrai que quand on parle alors de ce congrès, c'est dans le cadre aussi de ces élections législatives et régionales qui nous attendent déjà le 20 avril prochain. Et c'est vrai, dans ce cadre aussi, il y a un décret, une série même d'ailleurs de décrets du chef de l'État qui a réduit ou ramené même d'ailleurs les cautions ou les cautionnements à 300 000 francs au niveau des législatives et à 150 000 francs au niveau des régionales. Oui, je sais que entre-temps, on a mené le débat ici. Vous étiez parmi même d'ailleurs ces gens-là et ces journalistes qui pensaient que, mais écoutez, 500 000 francs, 300 000 francs ou 200 000 francs d'alors, ce n'était pas aussi mauvais que ça.
Oui, et permets-moi avant de revenir sur ta question de me prononcer également sur le congrès du NIR, surtout avec les à côté là. Et quand un fait arrive, je me pose moi beaucoup de questions. J'essaie de faire des analyses un peu plus approfondies pour voir comment est-ce que cela peut s'expliquer. Puis sur à un certain niveau, c'est parfois étonnant de voir certains faits sur le terrain avec une certaine catégorie de personnes. Je m'explique. J'ai vu les images également des enfants sur l'esplanade du Palais des Congrès hier. Mais la première chose que j'ai cherché à voir, c'est la note officielle disant que les écoles sont fermées à cause du congrès de UNIR. Vous savez, l'éducation, ça fonctionne pas des notes de façon hiérarchique. Le ministre pouvait prendre une note. Le directeur régional, les chefs d'inspection ou les chefs d'établissement et tout. Mais je n'ai vu aucune note officielle qui interdisait ou qui demandait la fermeture des classes parce qu'il y a conduire. Ça passe. Mais je me demande aussi par quelle alchimie les élèves se retrouvent en tenue pour certains et à l'effigie des t-shirts à l'effigie du Paris à l'heure des cours au congrès de UNIR. Ça veut dire quelque part, ils ont été libérés. Par qui? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste des enfants déserteurs qui ont échappé au contrôle des enseignants dans la classe qui se sont retrouvés là? Mais si c'est déserteurs, on ne peut pas les retrouver dans les tenues UNIR. Ça veut dire qu'il y a un fait qui est également préparé en amont. Est-ce que c'est un zélé juste qui voulait plaisir au parti en monnayant un peu aussi certaines choses, en imprimant des t-shirts, en les vendant d'abord aux élèves pour qu'ils puissent se retrouver sur le terrain, croyant faire plaisir au chef du parti ou à certains membres du parti, ou c'est juste une décision officieuse qui n'a pas de trace, mais qui a donné la recommandation aux élèves de se retrouver également sur ce terrain. Et là, j'interpelle également les parents. Moi, j'ai envoyé mon enfant à l'école. Je me dis, à cette heure-là, il est censé être dans la salle des cours pour suivre des cours. Mais si je retrouve mon enfant ailleurs, dans une tenue d'un parti politique, mais tu me dois des explications, le chef d'établissement me doit des explications par rapport à cet état de choses. Ça, c'est pas possible, avec tous les risques que cela, ça peut être. C'était une foule hier, on ne le souhaite pas. Mais il pouvait avoir de la dépendance avec tout ceci. La sécurité n'est pas garantie. Donc, j'envoie mon enfant dans un lieu où j'ai l'information, où il doit être en cet instant précis. Je ne peux pas le retrouver ailleurs et me taire dessus. Et là, on interpelle tous, ou j'interpelle le ministre de l'Éducation également, qui doit nous apporter des explications. S'il ne dit mot, ça veut dire il consent, il sait ce qui devait se passer. Mais s'il ne mène pas une action, c'est que peut-être quelqu'un est au-dessus de lui par rapport à cette décision-là. Il ne peut pas se prononcer. Ou au pire des cas, bon, il souhaitait en tirer les conclusions. Sinon, on doit comprendre réellement ce qui s'est passé pour que de tels faits ne se reproduisent plus dans la cité. Maintenant, pour revenir à ta question, oui. Tu connais ma position sur cette question. Je me disais, moi, 500 000, 300 000, c'était le minimum pour les candidats qui doivent se prendre au sérieux pour représenter, en fait, une population. Il faut être conséquent vis-à-vis de soi-même et avoir un peu dans la poche pour ne pas être dans une logique d'aller juste enfourer également sa poche et partir. Pour, en ce qui concerne le demi-tarif pour les femmes, moi je me dis ça ressemble un peu à du favoritisme. Je me dis les leviers sur lesquels il faut agir aujourd'hui sont ailleurs. Vous serez surpris, malgré le fait qu'on ait fait un demi-tarif pour les femmes, on manquera de femmes aux élections. Je vous mets à défi. Si on met même le tarif à zéro et que les femmes n'ont pas la volonté ou n'ont pas le courage de se présenter, là on fait quoi? Donc les problèmes sont ailleurs. J'ai évoqué la dernière fois les pesanteurs sociales. C'est une jungle. Le domaine là, on étouffe tellement que quand tu n'as pas un mental fort, on t'éclate avec tout ce qu'on peut raconter sur une femme. Donc c'est pas toutes les femmes qui supportent des assertions comme ça. Donc elle préfère être dans son camp pour laisser les hommes être sur le terrain comme ça. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas la volonté ou l'intellect aujourd'hui pour affronter certaines situations. Mais par rapport aux pesanteurs sociales et tout ce qui se passe autour, elle préfère rester dans son camp. Donc les leviers sur lesquels il faut agir sont ailleurs que de faire la moitié prix ou des trucs comme ça. D'accord. Qui ne peut pas forcément arranger.
Merci beaucoup Estelle. On va en arrêter là parce que il y a le temps qui avance. Donc nous allons donner maintenant la parole à nos auditeurs, mais bien avant nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. de retour dans cette émission Club de la presse de ce mercredi, troisième numéro. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114. Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, le nom c'est...
Oui,
c'est Pélé.
Oui,
Pélé, allez-y.
Oui, je salue le plateau.
Oui.
Bon, c'est d'abord, sans mentir, il faut que le parti RPP ne disparaisse la scène politique. Réellement, ce qu'on a vu la fois dernière à Cara, c'est demande. On peut peindre contre le parti, on peut peindre contre le ministre Ritter. Premier point. Deuxième point, quand vous parlez des athées du plus concret, et qu'à l'extérieur, on finit à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que c'est un prélat qui est devant. Cette guerre, c'est-à-dire, on fait le bureau du Congrès et on a vu le chef de l'État seul comme un sénat ou bien vous dire qui parle à chef et disciples. Et c'est fini. C'est pas un congrès. Vous voyez, quand on nous montre ça dans un pays, et c'est un jour d'ouverture. Et on dit qu'il n'y a pas l'école à cause des congrès. Et tous les députés, toutes les institutions du Togo sont pas. Là-bas. Vous voyez, tout ça, là, ça demande que la démocratie ne vienne pas au Togo. Il faut que le président soit fait ce qu'il faut. Et on a toujours dit qu'un jeune qui est arrivé et que les gens l'ont accepté en 2010, tout ça, jusqu'en 2010, les gens l'ont accepté, ils faire fait la démocratie. Avec ce stade-là, il faut aider ce pays.
Ok, merci beaucoup, Pélé. La ligne est un peu dégradée aussi. Allô?
Oui, bonjour.
Didier. Oui, bonjour, Didier.
Oui, bonjour Abbas, bonjour oui. Madame.
Oui,
Madame avait demandé par quelle assemblée les élèves sont retrouvés là-bas. Moi, je vais leur répondre, c'est l'assemblée de la tricherie du Parti unique, la tricherie de la mauvaise gouvernance. Sinon, comment se fait-il que le ministre Nkokoroko, il est présent, lui qui se prend à moraliser la société togolaise, qui est prêt à moraliser, à punir les gens, mais quand il s'agit de unis, il fait un laisser-avoir. Ça, c'est comme ça que le pays fonctionne. Madame ne devait pas s'étonner. Ça, c'est la marche normale de ce pays-là. Je veux remercier. Peut-être au retour de Fabrice lundi, le mercredi prochain, sera ce qui s'est passé pour que les élèves se retrouvent là-bas.
Allez, bonne journée.
Merci beaucoup.
Disiez, voilà, 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le nom, c'est?
Nyamavo.
Nyamavo, allez-y.
Je voulais aborder dans le même sens concernant les enfants. Vous savez qu'on est habitué avec le parti État, depuis RPT, son descendant unir, les imports et sports. Je vous disais une fois qu'une femme disait en fait, « Nous sommes dans le monde, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas fait un bon choix, c'est que vous avez échoué. On ne va pas vous voter parce que nous sommes fatigués avec la même chose, improductive. Nos enfants souffrent. C'est ce que la femme disait à ce député-là. Vous voyez que le chef de l'État, même s'il y a un mauvais choix, il faut l'accompagner. Parce qu'ils savent qu'ils sont lâchés. C'est pourquoi ils sautent dans tous les plats. Vous allez voir qu'un port d'espoir, ça n'a pas pu marcher tellement. Maintenant, pour avoir un grand nombre, vous dire que le parti unir est écrasant, il faut sortir les élèves. Si vous comprenez. Donc, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est la méthode du parti État. Est-ce que vous voyez? Donc, si on ne fait pas un effort pour sauver ce parti, le parti même là a besoin. C'est pourquoi je prends toujours l'unicité de l'opposition pour que, même si les membres de l'Unir veulent faire partie, ils peuvent faire partie. Bon, vous voyez que dans ce congrès, si par exemple, on leur propose au Kokoroko d'être le suivant président. Ah! Or, celui-là, il fait du bon boulot. Et vous voyez, mais ils n'accepteront pas. Donc, ils sont calés sur leur routine, ils tournent en rond. C'est ça que je voulais partager avec vous.
D'accord.
Sinon, si on ne comprend pas pourquoi les élèves sont là-bas, c'est que le parti État est perdu.
Merci beaucoup, Nyamavo. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, papa Sibiti.
Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous
merci.
Savez, avec l'Occident, le pays, le Togo veut qu'on dise qu'il est démocrate. Il n'y a pas de sanction. Vous voyez ce garçon-là qui est décédé, vous êtes peiné là-bas en parlant. iPhone, quelqu'un, iPhone, 1 million, bien combien. Nous, à notre époque, pourquoi? Vous dites les parents, aucun parent ne veut ne pas éduquer ses enfants. Et si vous voyez ça, c'est les enfants des riches. C'est eux. Quand vous voulez parler, ils disent, oh, qu'est-ce que ça fait? C'est comment? C'est la civilisation. Mon fils, non, un enfant de terminale, nous à notre époque. Tu travailles, ton argent c'est à toi, mais avant d'acheter quelque chose, on te l'impose, on te dit non. Mais pourquoi l'État togolais ne peut pas le faire? Ce n'est pas l'affaire des parents seuls, hein, c'est l'affaire de l'État. Parce que l'enfant, il sort, le parent lui donne une éducation, il sort, c'est autre chose. Que l'État s'impose. Et il faut la peine de mort. Cet enfant-là qui a posé cet acte malheureux, si on le tue, les enfants, ça leur servira d'exemple. Jules Ferry, il dit la terre, jonchée de leur cadavre, leur servira d'exemple. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. 22-21-33-114. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Canal FM.
Oui, le nom c'est?
C'est Ibrahim.
Ibrahim, allez-y.
Ok, je vais intervenir par rapport à notre jeune frère qu'on a tué. Quand on demandait de questionner les parents, moi je m'aimerais dire ça. Vous savez, il y a un écrivain arabe qui a dit que l'environnement est plus fort que les parents. Aujourd'hui, la plus grande partie des bêtises que les enfants copient, c'est dans les écoles. Donc, si l'État pouvait revoir comment recadrer la vie des élèves dans les écoles. Puisque quand vous allez là-bas, ils font des concurrences, des tenues, des téléphones. Même j'ai vu un institut de la place où ils ont tourné un truc et tout le monde, tous les étudiants venaient présenter son téléphone et bon, on validait. Ce qui veut dire celui qui n'a pas un bon téléphone, il va se voir un peu choqué. Vous voyez, il va passer par tous les moyens pour pouvoir avoir la prochaine fois un bon téléphone. Donc, il faut que l'État recadre les choses dans les écoles. C'est très fondamental. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.
Merci beaucoup, Ibrahim. 22-21-33-114, je pense que c'est le dernier auditeur.
Allô? Oui, oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Didier qui revient.
Oui, Didier, allez-y.
Ouais, pour le jeune là, on dit que les enfants sont le reflet de la société. Bon, moi, je pense que cet enfant a 22 ans en terminale. Alors que ses collègues à 22 ans sont en train de finir leur master, il y a un problème. Donc, on devait revoir depuis, les parents doivent revoir depuis l'éducation des enfants. À 22 ans, dans nos temps, c'est pas en terminale qu'on fait maintenant. Donc, il y a un problème aussi au niveau des parents, aussi de la société. Tu vois ce qui se passe, la société où tout le monde veut. Voyez ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur une île, à le congrès là. Un enfant qui va aller là-bas à son terminal, il voit les ministres avec les grosses voitures, avec tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne copie que ce que la société. Donc, ce qu'on avait dit un jour, il y a un problème que ça avait dit un jour, que les loups ne sont pas contents parce que les enfants ne soient pas, que les enfants ne soient pas des agneaux. Les loups ne sont pas contents que leurs enfants ne soient pas des agneaux. Merci.
Merci beaucoup Didier, je pense que vous êtes le dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce mercredi. Nous revenons en plateau, chers confrères, Sylvestre, vous allez écouter les uns les autres se prononcer sur les questions discutées ici au Club de la Presse. Finalement, c'est quoi votre réaction?
Non, je crois que tel que Papa Sibiti l'a dit, il faudrait quand même qu'au plus haut sommet de l'État, on puisse véritablement se prononcer. Et puis j'aurais même souhaité que pour ce cas donc de Imad, le jeune qui est tué, et puis de Alessandre qui est donc le tueur, pourquoi pas écouter même un responsable, pourquoi pas un département, un ministre, communiquer là-dessus, poser le débat, puisque ça devient maintenant aujourd'hui un débat national. Hein, le jeune Imad que nous avons perdu, qui sait si peut-être dans quelques années, c'est lui qui sera donc le plus grand homme d'affaires du Togo. Qui sait? Voilà qu'aujourd'hui, il n'est plus. Et Alessandre aussi, on pouvait le sauver si on avait pris des dispositions en amont. J'étais sur une radio là au cours de la semaine où quelqu'un a témoigné que bon, il fait son enfant fréquente avec lui et tout ça, qui vient à l'école souvent avec des chaussures de Grand Prix et tout ça. Vous voyez, ça veut dire que déjà en amont, on devait prendre un certain nombre de dispositions pour sauver peut-être ce jeune-là. Voyez-vous, donc aujourd'hui, on a perdu et Imad et Alessandre. Parce qu'Alessandre le fait, puisque mon confrère Abbas le soulignait aujourd'hui. C'est un acte prémédité, c'est une préméditation, sans hésitation. Aujourd'hui, à moins qu'on nous trouve donc une situation atténuante devant donc la cour d'assises, je crois qu'il risque donc le sort de celui qui a aussi assassiné Mehdi Lacoste. Il risque la peine maximale dans la perpétuité si jamais on ne trouve une situation atténuante. Donc ça veut dire qu'on a perdu et Imad et Alessandre. On pouvait mieux faire si on se prenait un peu plus tôt. Maintenant, je crois que c'est le temps de garder la parole pour les cartons, n'est-ce pas?
Oui, rapidement.
Oui. Et pour les cartons, vous savez, ça fait maintenant 2 ans que le concours, le dernier concours donc, de la fonction publique a été lancé et tout ça. Et puis, on en est jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. C'est-à-dire, on lance un concours, les jeunes se mobilisent, on fait la légalisation, on paie la quittance, et après, on ne dit rien. Ça devient comme si une forme d'arnaque. On lance un concours, les jeunes se mobilisent, ils dépensent énormément. Après le concours, l'État ne programme pas les résultats.
Et donc,
carton... personne, carton rouge. Mmh. Et je demande à ces jeunes-là de se constituer et de porter plainte contre l'État.
D'accord.
Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils vont gagner ce procès-là.
D'accord. Merci beaucoup. Abbas ?
Oui, c'est par rapport aux jeunes, Matt. Je pense que c'est l'éducation qui entre en jeu. Parce qu'aujourd'hui, il a perdu ses parents. Ses parents aussi vont le perdre. Il y a Didier qui l'a souligné tout à l'heure. À 22 ans, elle est toujours en terminale. Pendant que ses amis, à cet âge-là, sont déjà en train de préparer le master à l'université. Bon. Quand vous suivez la logique, c'est qu'il y a un problème. Parce que si ses parents sont bien nantis, il sera un enfant gâté. Et les enfants gâtés, c'est comme ça, ils se comportent au niveau de leurs camarades. C'est-à-dire qu'ils se croient les plus riches. Ils font peut-être que ce monsieur-là, ce jeune
Alexandre
présumé, qu'on appelle présumé.
Pas présumé, il est confirmé.
C'est qu'il vient, il vient à l'école avec beaucoup de choses et il emballe ses camarades. Moi, j'ai vu dans une école où un enfant de CM2 qui a pris l'argent de ses parents pour venir acheter même les portables à ses amis de CM, à ses élèves de CM, écoliers de CM2. Quand les professeurs, les enseignants ont arrêté l'enfant et on a convoqué les parents. C'est les parents qui ont dit à la direction de l'école que laissez, c'est mon enfant. Si vous ne voulez pas, je le prends de votre école.
Hein? Et devient des dangers publics.
C'est l'éducation. Et l'enfant, là, demain, lui fera plus que ce que l'autre l'a fait.
Alexandre a fait.
Hein? Donc, c'est.
Et s'il y a pire encore.
Donc, il faut que nous préparons les enfants. Quand Sylvestre a dit qu'il faut déjà faire les choses en amont et revoir l'éducation de nos enfants, je pense qu'il faut le faire.
D'accord. Carton de fin d'émission.
Ou pas de carton.
D'accord. Merci. Estelle,
non, je vais revenir un peu sur ce que les confrères ont dit déjà. Hein. Je crois que l'éducation est très importante aujourd'hui. Quand tu es parent d'élève, tu connais un peu ta bourse. Tu sais quelle bourse également, à quelle bourse tu mets ton enfant. Quand tu constates qu'il y a des objets ou certains effets qui n'est pas à même de s'offrir, mais qui les présente déjà, ça doit interpeller. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment ça se passe et mener de petites enquêtes autour de l'enfant pour comprendre réellement. Je suis aussi d'accord qu'il y a de ces enfants-là, on a beau tout leur dire, tout leur inculquer comme de bonnes valeurs, mais qui en font également à leur tête. Il y a ce type d'enfants également. Mais il faut que les parents soient toujours là.
Donc, il y a des têtus de naissance.
Oui, des têtus de naissance également. Il ne faut pas qu'on les oublie. Eux aussi, ils sont là comme ça. Et pour revenir un peu sur ce qu'un auditeur a dit, je crois, il était dans la logique de peut-être unir même qui avait amené les enfants et tout ça là pour remplir la salle. La salle du Palais des Congrès était pleine à craquer. Il n'avait pas besoin d'amener des enfants. Et même si on doit amener des gens pour remplir, je ne pense pas qu'il serait dans la logique d'amener des mineurs arborés dans les t-shirts à l'effigie du parti. C'est un peu trop flagrant. Donc, une fois encore, moi, j'interpelle le ministre de l'Enseignement pour nous expliquer clairement ce qui s'est passé par rapport à la présence de ces enfants-là lors du congrès du parti. Quoi. Donc, carton vert à la police pour tout ce qu'elle essaie de faire. La communication est tellement proactive également sur les réseaux réseaux sociaux par rapport à que ce soit des conseils, des pratiques et tout ça là.
Il faut ajouter un carton rouge pour le concours là.
Mais attends, tu as déjà
je suis influenceur.
Alors, Sylvestre, merci beaucoup à toi d'être passé dans cette émission. Abbas, merci. Estelle, merci d'être passé dans cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi. Merci à vous. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Dacoute a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.